Bonjour chers auditeurs de Radio Grand Ciel, bienvenue dans notre émission consacrée à l'art et la foi et surtout à l'histoire et l'iconographie chrétienne. J'ai le très grand plaisir de recevoir aujourd'hui dans le studio à Chartres Didier Méhu qui est non seulement docteur en histoire médiévale mais qui enseigne aussi en tant que professeur d'histoire et d'histoire de l'art du Moyen-Âge à l'université Laval à Québec au Canada. Donc bienvenue à Chartres cher monsieur Méhu.
Merci beaucoup, bonjour et merci de votre accueil.
Nous avons le très grand plaisir d'avoir avec vous un grand spécialiste de Cluny et comme il me semble cette année, le 11 septembre 2010, c'est le 11e centenaire de la fondation de Cluny qui passe aujourd'hui du fait de sa très grande richesse et de ses bâtiments qui étaient exceptionnels et avec son faste liturgique comme le monastère occidental le plus important du 11e siècle. Mais vous allez certes toutes nous parler plus précisément de sa liturgie qui était la caractéristique du faste développé dans cette abbaye. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, avec cette présentation de Cluny ?
Alors il y a beaucoup de choses déjà dans ce que vous avez dit. Peut-être deux mots sur la célébration, parce qu'effectivement on célèbre depuis l'année dernière, depuis 2009, le 11e centenaire de la fondation de Cluny, parce que la date de fondation de Cluny n'est pas connue. On ne sait pas si c'est en 909 ou en 910. C'est le 11 septembre, ça on le sait, mais la date de fondation, l'acte de fondation comporte une erreur dans la date, ce qui fait que ça peut être soit en 909, soit en 910, et les personnes qui ont décidé de lancer les commémorations, c'est-à-dire non seulement la municipalité, mais également un certain nombre d'associations touristiques, culturelles, ont choisi de faire une célébration très large, qui s'est jamais faite d'ailleurs jusqu'alors de manière aussi ample, qui a commencé en septembre 909 et qui va se terminer en septembre 2009 et qui va se terminer en décembre 2010 avec tout un tas de manifestations scientifiques, culturelles.
Et pourtant, on a dans les chartes ou dans la charte de fondation du Cluny une datation, mais qui ne correspond pas à notre datation actuelle.
Oui, c'est-à-dire, comme dans la plupart des documents du Moyen-Âge, l'année n'est pas donnée en termes d'année de l'incarnation, enfin, notamment pour le Xe siècle. Donc, on ne dit pas en l'an 950 ou 909, mais l'année est donnée par rapport au règne du roi qui était Charles le Simple. Donc on dit la 9e année du règne du roi, donc ça on peut tomber sur une année précise, mais il y a une autre indication chronologique, c'est de l'indiction, qui est un mode de datation romain. Mmh. Et si on calcule la date de l'indiction, donc avec une date on tombe sur 909 et l'autre sur 910.
L'indiction, donc, c'est une période de 15 ans, c'est cela ?
C'est ça, c'est une période qui avait été mise en place par l'empereur Constantin. C'est un rythme fiscal en fait, puisque tous les 15 ans il y avait une refonte du système fiscal et on comptait la première, la deuxième, la troisième, la quatrième année de l'indiction, et c'est un mode de datation qui s'est conservé au Moyen-Âge. Et donc il y a une erreur, soit ils se sont trompés sur la date du règne, soit ils se sont trompés sur la date de l'indiction, on ne saura jamais, mais bon, voilà quoi.
Bon, néanmoins, on va quand même fêter Cluny. Et alors, j'ai donné le titre suivant à notre émission aujourd'hui, Cluny, le diable et la société. Car nous sommes habitués ici à Chartres, avec les vitraux que nous contemplons avec un grand bonheur, de voir des représentations de diable. Mais apparemment, on n'a pas toujours eu l'habitude de consacrer des images au diable.
Non seulement des images, mais également d'en parler, en fait. Quand, effectivement, moi, ça m'intéressait de discuter de ce sujet-là. J'insiste sur les trois termes que vous avez mis dans le titre, c'est-à-dire Cluny, le diable et la société. Parce que moi, ce qui me préoccupe en tant qu'historien, c'est précisément la place du monachisme clunisien, enfin clunisien ou autre en fait, mais disons la place de l'Église au sein de la société occidentale et les relations des moines ou des autres ecclésiastiques avec le monde environnant. Parce que c'est évidemment pas un monde clos, les moines du Moyen-Âge n'ont strictement rien à voir avec les moines d'aujourd'hui, c'est une société complètement différente et le rôle social des moines est totalement différent. C'est-à-dire que Cluny, c'est quand même avant tout une institution puissante qui est fondée en grande partie sur une sorte de dialectique entre les laïcs et les moines, qui est fondée sur un système de donation un système de donation importante qui permet aux moines de se consacrer essentiellement à la liturgie. Ce sont des moines qui ne travaillent pas, contrairement à la règle de Saint-Benoît. Ce sont des moines qui prient pour les morts, qui prient pour eux d'abord et avant tout, pour la noblesse, puisque c'est quand même un monachisme très aristocratique, et qui ont un but d'intercesseur, d'intermédiaire entre le terrestre et le céleste. Donc, ce qui implique tout un système, toute une organisation sociale par l'intermédiaire de dons de terre, de dons de biens, de dons d'argent, de dons d'hommes. On donne son enfant au monastère,
les etc. Oblats.
Les oblats qui sont donnés très très jeunes, et ce qui a été très critiqué d'ailleurs par les cisterciens qui refusaient d'avoir des enfants, alors qu'à Cluny on acceptait les enfants très très jeunes, ils étaient éduqués dans le monastère pour devenir moines. Et le fait, pour revenir à la question de départ, pour parler du diable, en tant qu'institution importante, en tant que pouvoir normatif, pourrait-on dire, le diable, et donc toute la dialectique entre le bien et le mal, a été très utilisée dans la pastorale monastique. Et Cluny, enfin disons les moines bénédictins du XIe siècle, dont Cluny, sont représentatifs, sont emblématiques, parce que c'était eux qui étaient les plus importants à l'époque, ont effectivement joué un rôle important dans l'histoire du diable. Parce que comme tout ce qui relève de l'histoire de l'Église, à peu près rien ne date des premiers siècles, mais tout était dû d'une évolution historique. Et même si on parle du diable dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, l'Église des premiers temps parle très très peu du diable, en fait. Et c'est vraiment à partir du moment où l'Église va devenir une puissance importante dans la société médiévale, c'est-à-dire à partir des Carolingiens, à partir du IXe siècle, puis encore plus au XIe siècle avec la réforme grégorienne, avec l'instauration de la hiérarchie ecclésiastique, que le diable va avoir un rôle important en tant qu'instrument normatif, d'abord à usage interne, puis à usage externe, comme élément dans la pastorale.
Et peut-être voulez-vous encore développer un peu plus cet aspect de l'importance du monachisme clunisien. Cluny a eu une indépendance par rapport aux évêques des lieux où il se trouvait.
Alors, une indépendance, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, Cluny, lorsqu'il a été fondé, le monastère est raccroché directement à Saint-Pierre et à Saint-Paul. L'acte de fondation, contrairement à ce qui se faisait au préalable, c'est un fondateur laïque qui donne des terres pour fonder un monastère, et généralement le monastère reste assez étroitement attaché à une autorité laïque, qui est celle d'un roi, celle d'un duc, d'un comte. Là, le duc d'Aquitaine, qui a fondé Cluny, a décidé de donner sa terre à Saint-Pierre et à Saint-Paul, autrement dit à des personnes qui n'existent pas en tant que telles dans la société. Donc c'était une manière de soustraire le monastère de Cluny à tout l'environnement laïque. Et donc, évidemment, implicitement, Saint-Pierre et Saint-Paul, c'est Rome, c'est l'Église romaine. Donc Cluny était rattaché à la papauté. Mais Rome, c'est loin. Et donc les papes n'avaient pas, pendant longtemps, une sorte de tutelle sur Cluny, mais ce qui a donné lieu à une sorte d'indépendance relative, on va dire, de Cluny. Mais Cluny, c'est des moines. Donc ils ont besoin des évêques. Ils ont besoin des évêques et ils sont liés à l'évêque de Mâcon. Donc il y a eu des luttes très importantes entre les moines et les évêques, parce que l'évêque, comme dans tous les diocèses, l'évêque théoriquement a la juridiction épiscopale sur les moines, mais Cluny revendiquait une sorte d'indépendance par rapport à ses évêques. Donc il y a eu des conflits assez longs et durables.
Une petite pause alors. Thank you. après cette petite pause bien calme qui nous a changé un peu d'univers, nous allons parler maintenant du diable, puisque nous avons appris par Didier Méhu, qui est notre invité d'aujourd'hui, docteur en histoire médiévale de l'Université Laval au Québec, que les Clunisiens vont peut-être contribuer à développer le diable,
voilà. On peut dire, ouais. En effet, les Clunisiens, les moines en général, mais un peu plus les Clunisiens, encore une fois, parce que Cluny est au centre du phénomène monastique du XIe siècle. C'est-à-dire que on peut parler, en grossissant un peu les traits, d'une sorte de naissance du diable aux alentours de l'an 1000. Encore une fois, le diable était, d'une part, c'est pas une invention chrétienne, ça existe dans d'autres religions, et notamment il y a toute une préhistoire juive au diable chrétien. Mais dans les premiers temps, à part dans quelques vies de saints, on en parle relativement peu. Et on constate un changement d'échelle, en fait. Plus qu'une naissance, c'est vraiment un changement d'échelle dont il faudrait parler. C'est-à-dire une diffusion des représentations du diable dans la peinture, d'abord dans des manuscrits, puis assez vite dans le champ monumental, que ce soit des peintures murales, des sculptures, et puis simultanément dans la littérature. Littérature au sens médiéval, je ne parle pas de roman ou quoi que ce soit, on est au début du XIe siècle, mais dans la littérature monastique, c'est-à-dire la géographie, les vies de saints, et surtout des récits de miracles ou même des chroniques. Et c'est là où ça devient plus intéressant. L'un des premiers qui décrit le diable, c'est-à-dire qui dit l'avoir vu, qui en donne une description précise, à plusieurs reprises, c'est Raoul Glaber, ou Raoul le Glabre, qui est un moine bourguignon, qui est passé par Cluny, qui a vécu à Cluny, puis qui avait des comportements un peu dissolus, donc il a été plus ou moins expulsé de plusieurs monastères, mais on le gardait parce que c'était un excellent latiniste et un très bon lettré. Et Raoul Glaber raconte à plusieurs reprises dans son livre qui s'appelle « Les Histoires », qui est un livre très très précieux pour les historiens. Il raconte un certain nombre d'événements qui se sont passés avant lui, donc qu'il a repris d'autres chroniques, qu'il a entendu, qu'on lui a raconté. Et puis il raconte des histoires de sa propre expérience, et notamment le fait que les matins, au moment où sonnent les matines, il ne se lève pas et qu'il voit le diable arriver, qui secoue son lit et qui lui dit qu'il faut qu'il aille se lever. Et là, il en donne des descriptions.
C'est plutôt gentil de le réveiller alors.
Oui, parce qu'en fait, le diable est un sonneur d'alarme. C'est-à-dire qu'en fait, il est utilisé dans ses récits des moines, Raoul Glaber, puis après, il y en aura d'autres. Il est utilisé comme étant celui qui est... C'est un tentateur, en fait. Mais c'est un tentateur qui va inciter les moines soit à ne pas aller à l'office, soit il le réveille en lui disant « Attention, si tu restes là, tu es mien, en fait, tu m'appartiens et tu n'as plus ta place dans le monastère. » Donc il a cette attitude ambivalente, et pour la première fois on trouve des descriptions très précises d'un personnage qui auparavant n'était pas décrit. Si vous prenez la Bible, le diable, il n'est pas décrit.
Oui.
On parle, d'abord on lui donne
dans
plusieurs
noms. Dans le livre de
Job,
il apparaît parmi
il
les
apparaît,
anges.
Mais il apparaît, alors on parle des anges déchus, et ça encore, ça c'est dans le livre d'Enoch, c'est pas dans les évangiles, c'est des livres apocryphes, mais il n'est pas décrit. On ne dit pas qu'il a les pieds crochus ou je ne sais quoi, et ça apparaît vraiment au XIe siècle, où là, il y a une véritable... une sorte de réalité du diable qui se manifeste, et simultanément, et c'est le même qui apparaît dans les peintures et dans les descriptions, avec ses cheveux hirsutes en forme de flamme. Il est mi-humain, mi-animal, il est hybride, parce que dans la civilisation médiévale, tout ce qui est hybride relève du néfaste, puisque c'est une recréation de la création, donc les mélanges hommes, animaux, végétaux, et le diable va se construire sur cette ambiguïté, cette ambivalence, comme un être tentateur, avant tout des élites. C'est-à-dire que c'est pas par hasard que ce sont les moines qui, entre guillemets, inventent le diable, c'est parce que c'est aussi une manière de se valoriser. Le fait de dire qu'ils ont été tentés par le diable, c'est évidemment toujours pour dire qu'ils s'en sont bien sortis. Et donc, le diable ne s'adresse pas à n'importe qui, il s'adresse aux athlètes, pour ceux qui vont être suffisamment forts pour le vaincre. Parce que le diable, dans la société chrétienne, c'est un inférieur. C'est déjà c'est une créature. C'est pas un pouvoir équivalent. Il n'y a pas de dualisme. C'est une créature. Et donc, il est soumis à Dieu. Heureusement, sinon tout le système s'effondre. Parce que si le diable était aussi fort que Dieu, Il suffirait de se tourner vers le diable, et là tout le système chrétien tombe. Mais à partir du moment où il est inférieur, même si le diable vous tente, vous faites une prière à la Vierge, vous faites une donation au monastère ou telle ou telle
cérémonie. Alors là, c'est intéressant. Est-ce que autour de l'an 1000 avec Raoul Glaber, est-ce qu'on va déjà s'adresser à la Vierge? Le culte va se développer, mais est-ce qu'il est déjà suffisamment répandu?
Oui,
dans l'aristocratie.
Alors le culte marial, en fait, il a des antécédents dans l'Église orientale bien antérieurs, dès le 5e siècle. C'est au 5e siècle que le culte marial est vraiment instauré, au concile de Chalcédoine, donc 451, et il est très très développé dans l'Église byzantine. En Occident, c'est un peu plus tardif, c'est-à-dire qu'avec les Carolingiens, il y a déjà, donc au 9e siècle, il y a déjà un essor du culte marial, et ça va surtout se développer par l'intermédiaire des moines, donc d'abord les bénédictins, au 10e, 11e siècle, dont Cluny, puis dans un deuxième temps, les cisterciens. On associe souvent la Vierge à Cîteaux, à Saint-Bernard, mais c'est quand même avant les bénédictins classiques, pour une raison simple, c'est une réflexion sur la virginité, c'est une réflexion sur la pureté du corps, sur la conversion des mœurs, et la Vierge va être utilisée comme modèle, en quelque sorte, par les moines, avant d'être la figure emblématique des fidèles, comme la mère protectrice. Mais ça, c'est 12e, 13e siècle, enfin, c'est ce qu'on connaît avec les cathédrales.
Nous savons que Saint-Bernard a été un grand responsable de la propagation du culte de la Vierge. Pierre le Vénérable, sans doute aussi, dans ce cas-là.
Si... Oui, mais je pense qu'on attribue trop d'importance à Bernard de Clairvaux, parce que vraiment, il y a beaucoup de choses qui ont été faites bien avant lui. Bernard de Clairvaux, c'est les années 1120, 1150. Il faut vraiment remonter ça d'au moins un siècle avec les moines, comme les moines de Cluny, qui ont développé toute leur idéologie sur l'idéologie des moines vierges. C'est un historien, Dominique Ionia-Pratt, qui a travaillé sur ces questions-là il y a une vingtaine d'années, qui a bien montré le rôle central de la virginité dans la construction du monachisme réformé, donc d'un nouveau type de monachisme dont Cluny est emblématique, qui se construit sur une séparation radicale avec le monde laïque. Et la meilleure... Les deux modes qui sont utilisés, c'est le refus de la propriété et c'est le refus des relations sexuelles, qui sont les deux caractéristiques de l'homme laïque. Donc c'est précisément en refusant ça qu'on se construit selon le mode d'une société autre, qui est celle du monastère, et qui est conçue comme une société idéale, modèle.
On va parler après une toute petite pause musicale, peut-être du pourquoi et du comment de ces premières représentations du diable. Chers auditeurs de Radio Grand Ciel, Didier Mehu, docteur en histoire médiévale au Québec, nous parle du diable et des premières représentations du diable dans le mouvement de Cluny. Donc, cher Didier Mehu, continuez à nous parler du diable, de sa représentation.
Oui.
Et pourquoi est-ce qu'on a commencé à le représenter?
Parlons un peu des représentations. Alors, pourquoi? C'est vraiment dans la continuité de ce qu'on disait tout à l'heure. C'est lié à un changement historique qui est le changement de la place de l'Église dans l'ensemble de la société. Si auparavant, c'est-à-dire avant l'an 1000, pour être bref, hein, le diable est essentiellement utilisé à usage interne comme une sorte de guide moral, à partir de l'an 1000, on va constater une sorte d'extériorisation du diable. On en parle de plus en plus, on le représente, on le décrit, on dit qu'il intervient et qu'il va tenter les moines, puis qu'il va tenter les laïcs, qu'il va tenter les aristocrates, et de plus en plus il intervient dans le champ social, et à terme assez vite, à vrai dire, on va le représenter de manière extrêmement visible sur les murs des églises, jusqu'à ces tympans de Jugement dernier qu'on connaît sur toutes les cathédrales gothiques. Et ça, disons, c'est à partir du milieu du XIIe siècle où le diable va véritablement devenir une image extrêmement présente et de plus en plus présente, au moins jusqu'à la Réforme. Et puis après, bon, faudrait... c'est une autre histoire qui commence. Alors, pourquoi, quand je disais c'est une rupture historique? Aux alentours du XIe siècle, on a un changement social important qui fait en sorte que l'Église est véritablement l'institution la plus puissante de l'Occident, qui cumule des prérogatives spirituelles, des pouvoirs temporels, des pouvoirs judiciaires extrêmement importants, et c'est une puissance normative. Et en tant que telle, on assiste à une sorte de projet ecclésial qui est un projet augustinien au départ, c'est-à-dire d'organiser complètement sur terre une société chrétienne, organisée selon un principe chrétien avec les hommes d'église qui sont au cœur de l'ensemble de la société et qui tiennent l'ensemble de la société, que ce soit sur le plan de l'éducation, sur le plan de la justice, sur le plan de la formation, de l'hospitalité, etc. Et donc ils ont un rôle normatif d'ordre et de désordre, d'ordonner et d'exclure, qui commence à ce moment-là de manière de plus en plus importante. Donc le diable va avoir là un rôle essentiel parce qu'il va être utilisé comme étant la puissance qui fait peur, la puissance vers laquelle les hommes et les femmes vont être intégrés si jamais on ne suit pas la norme qui est dictée. Et donc il est de plus en plus présent. Et évidemment, alors ça augmente au XIIe siècle. C'est pas par hasard que c'est exactement à ce moment-là qu'apparaissent en Occident le phénomène des hérésies. Donc, c'est-à-dire les déviances par rapport à la norme, mais l'hérésie, c'est avant tout l'Église qui crée l'hérésie, puisque l'Église impose une voie qui est une voie beaucoup plus rigide que ce qu'elle était auparavant, et ceux qui ne veulent pas rentrer dans cette voie-là sont qualifiés d'hérétiques. C'est pas eux qui disent je suis hérétique, c'est l'Église qui dit vous êtes hérétique.
Oui, mais Pierre de Bruce, qui est un contemporain Pierre le Vénérable, lui, il va parcourir le sud de la France, il va commencer à brûler les croix parce qu'il dit qu'on ne peut pas représenter le Christ torturé mort sur la croix. Donc lui-même, il va être jeté dans le bûcher par les gens excédés par ce droit qu'il s'arroge. Donc, hérétique aussi parce qu'il attaque quand même les fondements aussi de la société chrétienne.
C'est tout le problème, c'est-à-dire que Pierre de Bruys est emblématique de tout un tas de mouvements qui contestent le rôle de l'institution ecclésiale en tant que médiateur obligé, c'est-à-dire qu'un des fondements critiqués par Pierre de Bruys, c'est le baptême des enfants, selon lequel on ne doit pas baptiser les enfants, mais uniquement des adultes, du fait que le baptême doit s'adresser à la raison. Il condamne les lieux de culte en tant que tels, c'est-à-dire que Dieu n'est pas simplement présent dans un lieu de culte, mais il est présent il peut être présent partout, donc il n'y a aucune raison de faire en sorte que le lieu de culte soit uniquement dans l'église, mais il peut être aussi ailleurs. Et il condamne entre autres le crucifix comme étant avant tout un symbole non pas de rédemption, mais un symbole de mort. Donc rien que ces trois-là, c'est évidemment des choses fondamentales sur lesquelles s'est construite progressivement l'église. Donc il entre en contradiction avec l'institution ecclésiale, donc il est condamné pour ça. Mais c'est aussi, il faut jamais oublier que jusqu'à une période relativement récente, il y avait un certain nombre de voix discordantes, et c'est précisément à partir du moment où on va... Parlons du baptême des enfants, le pédobaptisme, donc le baptême des enfants, c'est vraiment imposé à la période carolingienne. Auparavant, on ne baptisait jamais des enfants. Et on s'est mis à... Donc c'est une nouveauté qui a été apportée par l'institution ecclésiale, qui elle-même a créé des réticences. Et dans la grande majorité des cas, les hérétiques sont des conservateurs, en fait. Ce sont des gens qui refusent les évolutions qui sont apportées par l'institution ecclésiale elle-même.
Oui, mais pas par ces trois caractéristiques que vous avez évoquées. Pierre de Bruys est quand même un un précurseur du catharisme, des vaudois, qui vont exactement rejeter les mêmes symboles, les sacrements.
Ouais, ouais.
Alors... L'Église va les combattre quand même fortement, parce que comme la société est fondée justement sur le monachisme, sur cette importance du monachisme, attaquer l'Église, c'est attaquer les fondements de la société.
C'est attaquer l'ensemble de l'ordre social.
De l'ordre social. Donc l'Église devait de réagir très fortement. Ouais. Et donc les diables permettra effectivement de stigmatiser justement des gens qui vont dévier en dehors du cadre imposé
et
qui
rend
l'espace sacré, c'est l'un de vos points forts également. Donc nous allons dans une deuxième émission parler justement de l'importance de l'espace sacré.
Ouais.
Donc si Dieu est présent partout, l'Église elle perd effectivement en tant que lieu du sacré.
Absolument, et c'est aussi tout à fait lié parce que le fait que l'Église s'inscrive dans des lieux est strictement contemporain de ce dont on a parlé aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un tournant du XIe siècle où on va se mettre à consacrer des lieux alors qu'auparavant on le faisait très très peu. Donc tout ça est totalement lié. Et c'est précisément parce qu'on rentre dans une autre phase de l'histoire de l'Église que celle qui existait auparavant.
Donc on savait que le diable existait parce que dans la Bible on trouve bien des évocations de Lucifer, et l'Église va ressentir donc le besoin autour de l'an 1000 de faire des représentations pour faire peur. Pour se faire peur ou pour...
Je dirais, faire peur, il me semble, c'est réducteur. C'est plus pour normaliser. Parce que ça ne relève pas simplement de la peur, ça relève véritablement d'un projet éducatif au sens le plus large du terme, et dont la peur est un des éléments. Mais c'est avant tout un projet de formation, de mise en norme, de mise en ordre, de la société. Et la peur est un des éléments.
Et une visualisation aussi des vices, puisqu'on a, pour ne prendre qu'un exemple, dans le portail sud de la cathédrale de Chartres, le vice de l'impureté, de la luxure, avec un diable qui a un visage à un endroit où normalement on n'en a pas.
Bien sûr.
Avec cette femme nue, les cheveux ouverts sur son dos.
Ouais.
Effectivement,
là,
ça
on
permet
est au XIIIe siècle, hein, donc on est déjà dans une période.
Mais on a développé cette idée quand même en visualisation.
Les deux, vous savez, dans les premières représentations du diable, les premières représentations de l'enfer, en fait, il y a deux péchés qui sont stigmatisés, qui sont la luxure et l'avarice, qui sont d'emblée, qui sont les deux premières choses auxquelles s'attaque l'Église. Et pendant très longtemps, dans les jugements derniers, les seules personnes qu'on voit un avare avec une énorme bourse autour du cou, et on voit des représentations luxurieuses, donc avec, par exemple, ce que vous évoquez, des démons avec un ventre à la place du sexe ou sur le postérieur, enfin. En fait, c'est une multiplication des orifices, c'est-à-dire que c'est un corps qui est transformé en bouche, en gueule, puisque tout ça est une réflexion sur le corps, avant tout. C'est une opposition de la chair et de l'esprit, c'est pas autre chose, puisque c'est le fondement même de toute l'organisation ecclésiale.
Cher Didier Méhu, nous voilà déjà malheureusement, à notre très regret, à la fin de notre émission qui était très intéressante. Vous nous avez parlé de Cluny, le diable et la société. Chers auditeurs, si vous voulez réécouter ces émissions qui sont diffusées sur Radio Grand Ciel les mardis et jeudis, vous pouvez aller sur le site du Centre International Vitrail et trouver sous le portail du Centre International Vitrail les émissions enregistrées avec ces excellents historiens comme Didier Méhu. Merci beaucoup.
Merci.
Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission que nous allons consacrer avec Didier Méhu au voyage des papes et la spatialisation du sacré au Moyen-Âge. Au revoir, chers auditeurs.